Ciao. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce lundi soir. À la une de votre journal, la prestigieuse université de la Sorbonne, occupée par des manifestants pro-Gaza. Le mouvement parti des États-Unis gagne la France petit à petit. Cela avait commencé à Sciences Po la semaine dernière. Même si les militants ont été évacués rapidement, la pression de l'extrême gauche dans les universités françaises semble plus forte que jamais. Une enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort de Matisse, 15 ans, à Châteauroux ce week-end. L'auteur présumé du coup de couteau est un adolescent du même âge. Il a été présenté à un juge cet après-midi. Vous en saurez plus sur son profil dans quelques minutes. Dans ce journal également, Gérard Depardieu en garde à vue pour deux affaires d'agression sexuelle. Il sera jugé en octobre prochain. Et puis l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député Renaissance Louis Marguerite, sera avec nous pour réagir à l'actualité. Europe 1. Depuis plusieurs mois, des manifestants pro-Gaza occupent des campus américains pour réclamer, entre autres, un cessez-le-feu dans l'enclave, des mobilisations entachées parfois de dérapages antisémites. Et depuis la semaine dernière, le mouvement a gagné les universités françaises. Après Sciences Po la semaine dernière, c'est la Sorbonne qui était occupée une partie de la journée. Bonsoir Thibault.
Bonsoir.
Les cours et les examens ont dû être annulés, mais les militants ont rapidement été évacués par les forces de l'ordre.
Ouais, finalement, les étudiants ont rapidement trouvé un plan B, puisque tout de suite après avoir quitté l'enceinte de l'État, ils ont investi la place de la Sorbonne. Tous se sont disposés autour d'un très grand drapeau de la Palestine avec des banderoles, des pancartes. Et puis, il y a eu des chants, des discours, des slogans. Certaines associations ont pris la parole, mais aussi des personnalités politiques. La France Insoumise et notamment Louis Boyard étaient présents. Et ce qui était frappant, c'est que les forces de l'ordre qui ont encerclé le groupe sont restées statiques. Ils n'ont jamais fait pression sur les manifestants qui sont restés sur place toute l'après-midi. La mobilisation a ensuite pris fin dans le calme après 19h. Et elle pourrait bien être reconduite. C'est en tout cas ce que m'a glissé certains étudiants en quittant les lieux.
Thibault Hue, et concernant les blocages à Sciences Po Paris, organisés donc la semaine dernière, la région Île-de-France prend une décision radicale. Elle suspend les financements à destination du prestigieux établissement. La présidente LR de la région, Valérie Pécresse, estime, je cite, qu'une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite ne peuvent pas dicter leur loi à l'ensemble de la communauté éducative. Fin de citation. De leur côté, les élus de la France Insoumise continuent de soutenir ces blocages d'universités et de cadres du parti. Parti était reçu à Matignon aujourd'hui sur un autre sujet, la violence chez les mineurs. Gabriel Attal consulte l'ensemble des forces politiques pour trouver des solutions à ce phénomène particulièrement inquiétant. Les représentants de la majorité étaient conviés à leur tour en début de soirée par le Premier ministre. Cette violence chez les plus jeunes s'est encore exprimée de la plus tragique des manières ce week-end à Châteauroux. Matisse, un adolescent de 15 ans, a été tué à l'arme blanche en pleine rue après une dispute. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Le principal suspect est âgé de 15 ans également. Il a été présenté à un juge cet après-midi, tout comme sa mère, également soupçonnée d'avoir violenté Matisse. Alexis de la Fléchère, que sait-on du profil de l'auteur présumé des coups de couteau mortels ?
Eh bien, on sait qu'il est de nationalité afghane, qu'il était connu des services de police pour vol aggravé avec violence. Il était sous contrôle judiciaire, en liberté donc sous certaines conditions, mais pas incarcéré. Ce qui interroge le maire de Châteauroux, qui pointe aussi du doigt la responsabilité des parents.
Moi, je conçois pas et j'arrive pas à comprendre que des parents laissent ressortir un enfant après qu'il a été mis en cause dans des affaires de violence. Enfin, je peux pas concevoir que ce jeune se soit trouvé à nouveau dans la rue, à nouveau avec un couteau et récidive.
Une récidive à l'issue fatale, cette fois pour sa victime, Matisse, poignardé au dos et au thorax, samedi dans le quartier Saint-Denis de Châteauroux, décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Enfin, concernant le scénario du drame, selon Le Parisien, une première bagarre aurait éclaté entre les deux mineurs lors d'une battle de rap freestyle. Le mis en cause serait ensuite retourné à son domicile chercher un couteau. Humilié, dit-il, c'est sa défense. Il serait passé à l'acte après avoir subi des insultes faisant référence à ses origines afghanes. Mais ça reste à déterminer par les enquêteurs.
Alexis de la Fléchère. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle. Cela fait suite aux plaintes de deux femmes contre l'acteur de 75 ans. Elles rapportent des faits commis sur le tournage du même film, Guillaume Dominguez.
Oui, l'interrogatoire s'est déroulé dans les locaux du 3e district de police judiciaire à Paris. Gérald Depardieu était entendu depuis ce matin. Les enquêteurs l'ont interrogé au sujet de deux plaintes. La première, déposée en février dernier par une décoratrice de cinéma qui travaillait dans l'équipe du film Les Volets Verts. Elle dénonce des faits d'agression sexuelle survenus dans un hôtel particulier à Paris en 2021. Elle évoque de nombreux propos graveleux, mais aussi des violences commises par Gérard Depardieu. Les agissements de l'acteur sont aussi dénoncés par une ancienne assistante de tournage des faits d'agression sexuelle commis, selon la plaignante, là aussi en 2021. De son côté, l'acteur a toujours démenti ces accusations. Dans une lettre ouverte publiée en octobre dernier dans le Figaro, il affirmait, je cite, « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme ». Au total, en France, comme à l'étranger, une vingtaine de femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice. Jusqu'à présent, Gérard Depardieu a toujours échappé aux poursuites. Une plainte déposée par la comédienne Hélène Darras a été classée sans suite, classement en raison de la prescription, puisque les faits remontaient à 2007.
Guillaume Dominguez, et je rappelle que Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle dans un autre dossier depuis 2020. C'est ce qu'on appelle un ultimatum. Le Rassemblement National donne 30 jours au gouvernement pour présenter un projet de loi de finances rectificative devant le Parlement. Dans le cas contraire, une motion de censure sera déposée par le groupe RN à l'Assemblée. Menace similaire brandie par la France Insoumise à l'issue d'un débat d'orientation budgétaire sans vote, organisé au Palais Bourbon quelques jours après le maintien de la note de la France par les agences de notation Fitch et Moody's. Calmer une bonne fois pour toutes la colère des agriculteurs. C'est l'ambition d'Emmanuel Macron et c'est pour ça que l'Élysée annonce une réunion de travail avec les syndicats et les représentants des filières agricoles le 2 mai prochain. Les échanges porteront sur les perspectives de l'agriculture française et européenne. Une nouvelle série de mesures annoncées ce week-end par le gouvernement a été plutôt bien accueilli par les syndicats majoritaires. Vous écoutez Europe 1, il est 22h06. 8 figures du cinéma auront la lourde tâche de départager les 22 films en compétition lors du prochain Festival de Cannes. On connaissait déjà la présidente du jury de cette 77e édition, l'américaine Greta Gerwig, réalisatrice du film Barbie. Et les noms des autres membres du jury ont été dévoilés aujourd'hui, deux semaines avant leur arrivée sur la croisette. Et Marie Jiquel, des stars françaises font partie du casting.
Oui, on sent que le festival, taxé de valoriser des stars américaines, a choisi aussi des figures du cinéma tricolore, mais qui restent très identifiées à Hollywood. Omar Sy, l'une des personnalités préférées des Français, le Arsène Lupin de la série Netflix qui avait cartonné dans le monde entier, l'actrice Eva Green, éblouissante Milady dans Les Trois Mousquetaires, mais connue à l'international aussi pour son rôle dans les James Bond avec Daniel Craig. Dans ce jury également, l'actrice amérindienne Lily Gladstone qui avait crevé l'écran l'année dernière à Cannes dans Killers of the Flower Moon. Et puis s'ajoutent à cette liste d'autres habitués du Festival de Cannes comme le réalisateur japonais Kore-eda. Un jury au complet, 4 femmes et 4 hommes autour de Greta Gerwig qui devront départager les 22 films en compétition. Des noms qui rejoignent un tapis rouge impressionnant cette année. On pourra y voir le créateur de Star Wars, George Lucas, qui recevra une palme d'or d'honneur, mais aussi Francis Ford Coppola en quête d'une 3e palme pour Mégalopolis. Top départ le mardi 14 mai avec en film d'ouverture un autre Français, Quentin Dupieux, qui présentera sa nouvelle comédie.
Marie Jiquel, spécialiste culture à la rédaction d'Europe 1. Et puis le gardien titulaire de l'équipe de France de football sera-t-il disponible pour jouer l'Euro en Allemagne? La question peut se poser ce soir car Mike Maignan est blessé à l'adducteur droit. C'est son club, le Milan AC, qui l'annonce sans donner de durée d'absence. La compétition internationale débute le 14 juin prochain. Vous écoutez Europe 1, il est 22h08. Place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit.
Europe 1.
L'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir, c'est le député Renaissance de Saône-et-Loire, Louis Marguerite. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Alors, on parlait dans le journal de ce blocage de la prestigieuse université de la Sorbonne, qui était donc fermée cet après-midi. Plusieurs dizaines d'étudiants pro-palestiniens ont investi le bâtiment pour soutenir les habitants de Gaza. Les forces de l'ordre ont fini par évacuer les manifestants. Ces derniers jours, les locaux de Sciences Po Paris ont été bloqués pour les mêmes raisons. Nos confrères de CNews agressés ont été traités de fachos par certains militants. Louis Marguerite, nos universités sont-elles définitivement gangrénées par l'extrême gauche ?
Je crois. Ce à quoi on assiste est extrêmement grave, scandaleux et inadmissible. Parce qu'on confond assez allègrement, et ça c'est totalement téléguidé par l'extrême gauche, on confond le débat, le lieu du savoir, et il peut y avoir évidemment des désaccords sur tel ou tel sujet, y compris sur le conflit au Proche-Orient, un conflit qui est extrêmement complexe d'ailleurs, et sur lequel je crois les formules creuses n'ont pas beaucoup de sens, mais et on confond ça avec quelque chose qui relève de la violence, et surtout qui est le fait de quelques étudiants minoritaires radicalisés, totalement instrumentalisés par l'extrême gauche et en particulier par la France insoumise, dont on voit d'ailleurs certains de leurs députés qui viennent ceindre leur écharpe tricolore à Sciences Po, à la Sorbonne, et j'imagine qu'ils sont aussi dans d'autres facultés. Donc c'est extrêmement grave. Il faut évidemment en tout cas moi je suis scandalisé par cette attitude, et il faut le combattre. Et ce n'est pas une minorité, pour être très clair, parce que c'est aussi cela que les gens attendent de nous et que la population attend de l'État, c'est que ce n'est pas une minorité qui a dicté sa loi contre l'immense majorité des étudiants qui, peu importe leurs convictions, souhaitent juste étudier, passer leurs examens et pouvoir assister aux cours qu'ils ont choisis et qu'ils poursuivent.
Et comment concrètement le gouvernement peut-il agir là-dessus ? On sait qu'un nouveau directeur doit être nommé à Sciences Po dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'il faut faire attention à qui l'on nomme ? Est-ce qu'il faut nommer des personnes qui sont plus intransigeantes avec ces idées d'extrême gauche ?
Je pense que s'il faut nommer des personnes qui vont rétablir l'autorité, on voit bien que ce n'est, encore une fois, ce qui est très important de comprendre sur ce qu'on voit, c'est que il y a des scènes d'abord qui sont assez choquantes. On ne parle pas de lieu de débat, encore une fois, on parle de blocage, et donc il faut que nous ayons une direction à la Sciences Po comme ailleurs, d'ailleurs, des directions qui puissent rétablir l'autorité pour que les cours se passent normalement. Ça n'empêchera pas les débats, ils sont nombreux et c'est extrêmement important, mais effectivement un besoin d'autorité qui est très fort, et le Premier ministre d'ailleurs l'a rappelé très clairement, il l'avait rappelé lorsqu'il était venu à Sciences Po il y a quelques semaines maintenant, soutenu par quelques députés de la majorité, et nous soutenons évidemment tous le Premier ministre sur ce point, et donc je crois que c'est extrêmement important, donc heureusement que nous sommes en mesure, et c'est ce que les Français attendent de nous, rétablir l'ordre dans les universités qui doivent être le lieu du savoir et surtout le lieu du débat.
Toujours sur Sciences Po, monsieur le député Louis Marguerite, un accord a été signé entre la direction et les manifestants la semaine dernière. Il prévoit la tenue d'un débat interne jeudi prochain, mais aussi l'abandon des sanctions contre les étudiants mobilisés. Vous comprenez qu'on puisse y voir une capitulation, comme le dit la droite et le RN notamment ?
Oui, bon, la droite et les RN n'ont pas de leçons à nous donner par ailleurs sur la façon dont il faut gérer les choses. Bon, j'étais pas dans les discussions.
Mais est-ce que le gouvernement devait soutenir cet accord ?
Complexe. Moi, je crois. D'abord, je note quand même qu'il y avait une troisième revendication sur laquelle nous n'avons pas cédé. Enfin, je dis nous, c'est en tout cas la direction de Sciences Po n'a pas cédé. Et heureusement, c'est la remise en cause, en tout cas la remise en question des liens que Sciences Po a avec des universités israéliennes. Dont je rappelle aussi que si on s'y intéresse quelques instants, ce sont aussi des lieux de débat et ce sont aussi des lieux d'ailleurs où il y a des contestations du gouvernement de Netanyahou. Donc les choses sont pas du tout aussi binaires que ce qu'on veut bien laisser entendre. Donc je crois que c'est sans doute pas la fin de l'histoire. Je crois qu'en effet, on attend d'aller plus loin sur le rétablissement de l'ordre et de l'ordre et de l'autorité. Parce que je crois vraiment que Sciences Po, comme partout ailleurs d'ailleurs, pas spécialement que Sciences Po, on a besoin de rétablir l'autorité. Donc c'est, j'imagine, peut-être une étape, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin sur le rétablissement de l'autorité pour que les cours se déroulent normalement.
La présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce la suspension des financements de la région Île-de-France à destination de Sciences Po Paris. Vous soutenez cette décision ?
Ouais, j'imagine qu'elle est temporaire et qu'elle a vocation à nourrir non pas un dialogue, mais en tout cas qu'elle manifeste un mécontentement. Donc j'imagine que c'est temporaire, mais en tout cas moi je fais pas partie de la majorité, enfin je fais pas partie des Républicains et je suis député de la majorité, mais oui je pense que la présidente Pécresse a bien fait d'envoyer ce signal très fort. Encore une fois j'imagine qu'il est temporaire, mais je pense qu'elle a eu raison, parce qu'il faut que les choses rentrent dans l'ordre et rapidement.
Louis Marguerite, je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Un débat sans vote a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée autour du programme de stabilité pour les finances publiques présenté par le gouvernement mi-avril. Et quelques jours après le maintien de la note de la France par les agences de notation Fitch et Moody's, le Rassemblement National et la France Insoumise ont lancé un ultimatum au gouvernement. Ils disent qu'il faut présenter un budget rectificatif sous un mois, sinon on va déposer une motion de censure. Ça vous fait peur dans la majorité ?
Non, pas du tout. D'abord, c'est évidemment un effet d'annonce, un effet de communication qui est un peu caricatural et un peu vulgaire, parce qu'en réalité, les oppositions peuvent tout à fait déposer des motions de censure comme ils le souhaitent. La Constitution le permet, et le permet d'autant plus qu'elle le permet lorsque le gouvernement adopte des budgets par 49-3. Donc, c'est toujours possible. Encore faut-il avoir la signature d'au moins une cinquantaine de députés. Donc, déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout à fait leur droit de le faire. C'est aussi une forme de contre-pouvoir. Donc, moi, je ne conteste pas.
Et le gouvernement peut-il céder? Le gouvernement peut-il céder à cet ultimatum?
Non, mais d'abord, le PLFR, on en a fait toute une histoire, parce que le projet de loi de finances rectificative, d'abord, c'est pas qu'un choix. C'est surtout le gouvernement a le droit de rectifier son budget dans des certaines limites, et il se trouve que nous sommes dans ces limites. En tout cas, le gouvernement est dans ces limites. Donc déjà, il a le droit de ne pas utiliser un projet de loi de finances rectificative. Donc ça, c'est le premier point, si on s'en conforme au droit. Et ensuite, rien n'empêche effectivement aux oppositions de déposer une motion de censure. Ce que je note quand même, c'est que ces éventuelles motions de censure, en fait, ceux qui s'apprêtent à les voter ou à les soutenir, le feraient pour des raisons totalement différentes. Vous avez à gauche, à fortiori à l'extrême gauche, des gens qui vous disent qu'on peut tout résoudre en augmentant les impôts, soi-disant de quelques-uns, mais en réalité, vu les sommes dont on parle, ce serait les impôts de tout le monde. Donc il faudra expliquer aux gens qu'on va augmenter pas que les impôts des plus riches et après des riches, mais en fait les impôts de tous les Français. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre, des gens qui vous expliquent qu'en réalité, il faut faire des économies beaucoup plus dures que celles que le gouvernement a proposées courageusement au mois de février, réagissant d'ailleurs aux prévisions de recettes qui étaient moindres qu'attendues. Donc moi, je veux bien que les oppositions se réjouissent d'avance, comme si le fait de battre un gouvernement était une bonne chose en soi, enfin en tout cas se réjouissent de cela, en fait le ferait pour des choses totalement orthogonales et totalement différentes. Donc en réalité, il n'y a pas de projet alternatif, et encore moins sur les sujets budgétaires. Donc voilà, donc moi j'entends les arguments, mais je note quand même que ceux qui souhaitent des motions de censure, en particulier sur le budget, le veulent pour des choses qui sont soit pour augmenter les impôts, soit pour baisser les dépenses, mais en tout cas des choses qui sont totalement contradictoires et orthogonales.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a redit devant l'Assemblée nationale pendant ce débat aujourd'hui. L'objectif reste le même pour le gouvernement, ramener le déficit en dessous des 3% du PIB en 2027. Aujourd'hui, je rappelle qu'il s'affiche à 5,5% du PIB. Pourtant, selon le Haut Conseil des Finances Publiques, cette trajectoire est peu crédible. Alors, vous y croyez vraiment ou c'est juste une façon de retarder les mauvaises nouvelles ?
Bien sûr que j'y crois. J'y crois d'autant plus que, d'abord, c'est des choses qu'on a réussi à faire dans le passé. Je rappelle quand même en 2017, 2018 et une partie de 2019, nous sommes repassés sur les 3% de déficit. Mais pourquoi 3%? C'est pas uniquement pour se faire plaisir ou pour afficher un slogan ou pour faire plaisir à une agence de notation à Bruxelles ou que sais-je. C'est qu'en fait, à partir de 3%, vous commencez à rembourser votre dette. Voilà pourquoi il faut atteindre cet objectif et que c'est important. Mais moi, ce que je note quand même, c'est que les communiqués de presse des oppositions, les tweets ravageurs et vengeurs étaient déjà prêts quand il s'est agi de regarder ce que les agences de notation allaient faire vendredi soir. Il se trouve qu'elles ont maintenu la notation de la France, mais ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est la majorité, le gouvernement, Bruno Le Maire, le président de la République, le Premier ministre, qui pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, ont convaincu les agences de notation que notre trajectoire était bonne, que nous avions pris les mesures nécessaires. Parfois difficile, c'est vrai, mais nécessaire au mois de février pour corriger l'écart qui était apparu lié à des moindres recettes sur le budget. Et donc c'est ce que nous avons fait. Comme par hasard, les gens nous disent que finalement c'était pas si important que ça, que les agences de notation c'était pas si grave que ça et que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc non, je crois qu'il faut être très sérieux, très réaliste, très cohérent entre ceux qui nous disent que nous sommes trop austères et d'autres qui nous disent que nous sommes trop laxistes. Peut-être que nous sommes probablement sur le point d'équilibre. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut avancer pas à pas, être crédible, et c'est ce que nous essayons de démontrer tous les jours avec les mesures.
Dernière question, Louis Marguerite. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Les comptes publics font partie des sujets de campagne en vue des élections européennes. La liste Renaissance emmenée par Valérie Ayé est toujours en difficulté dans les sondages. 16% d'intention de vote contre plus de 30% pour la liste du RN de Jordan Bardella. Le Premier ministre Gabriel Attal accepte finalement de débattre avec Jordan Bardella avant le scrutin. C'est une bonne idée selon vous?
Oui, c'est une bonne idée, mais encore faudrait-il que Jordan Bardella accepte, parce que moi j'ai pas vu beaucoup Jordan Bardella débattre avec les uns et les autres. Je crois qu'il en est à son troisième ou quatrième débat qu'il esquive ou qu'il transmet à son directeur de cabinet ou que sais-je. Donc on va voir si Jordan Bardella l'accepte à son tour. Mais je crois qu'il faut pas être plus inquiet que cela sur le déroulé de la campagne. C'est une campagne qui reste encore longue. On se parle d'une élection le 9 juin. Les opinions publiques peuvent beaucoup changer. Vous savez, à titre personnel, moi, on m'avait prédit une défaite aux élections législatives. Il se trouve que je l'ai remportée. Alors, il faut toujours rester prudent, modeste et humble. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut surtout être extrêmement mobilisé, mobiliser son électorat, dire de quoi il s'agit, c'est quels eurodéputés nous souhaitons autour de Valérie Ayé envoyer à Bruxelles et à Strasbourg pour défendre les intérêts de la France dans une Europe forte. La France est forte parce que elle est dans une Europe forte et réciproquement. Et je crois que c'est ça la vraie question. Donc, il faut continuer à se mobiliser énormément sur le terrain et autour de Gabriel Attal, de Valérie Ayé et de beaucoup d'autres.
Merci beaucoup Louis Marguerite. Je rappelle que vous êtes député Renaissance
Merci
de Saône-et-Loire. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Nuit. La météo désormais avec vous Marlène Duret. Et demain encore de la pluie.
Oui, il faut s'attendre à une succession de passages pluvieux cette semaine et donc demain encore de la pluie. Oui, alors déjà avec un premier front qui va arriver en Bretagne, il va pas vraiment avancer, hein, mais bon, il peut donner quand même de bonnes pluies. Ça va concerner le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Et puis d'autres pluies vont remonter depuis l'Occitanie vers les Hauts-de-France et la Champagne. Ces pluies vont traverser l'Auvergne, le Limousin, la Bourgogne, l'Île-de-France. Dans l'après-midi, ça va se décaler un tout petit peu vers l'est. Ces pluies vont prendre plutôt un caractère d'averse et puis on retrouve des pluies quand même régulières entre l'ouest de la Provence, la vallée du Rhône, l'est de l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté avec pourquoi pas quelques orages noyés dans la masse. A contrario, quelques régions resteront au soleil du côté de la plaine d'Alsace, mais aussi de la Normandie en descendant vers l'Anjou, le Poitou, l'Aquitaine, là, pas mal de soleil. En Corse, le soleil sera voilé et les températures au plus chaud de la journée, 13 degrés du côté de Quimper, nous aurons 17 degrés à Clermont-Ferrand, au Sable d'Olonne, 19 à Paris, à Laval, à Toulouse, Marseille, 21 degrés à Reims et Annecy, 24 à Nancy et 26 à Strasbourg.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h21 et c'est Olivier Delacroix qui arrive maintenant pour la libre antenne comme tous les soirs. Il y a eu quelques changements dans la grille d'Europe 1, vous le savez, mais 22h20 reste le rendez-vous pour parler avec Olivier Delacroix et le numéro n'a pas changé lui non plus. C'est le 01 80 20 39 21. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Mel, non, rien n'a changé. Cette libre antenne est toujours là, à l'heure et de bonne humeur.
Tout à fait.
Et je suis très heureux de vous voir. La semaine commence avec ce bonjour avec vous, Maëlle.
Mais oui.
C'est une semaine qui démarre toujours bien.
Et votre équipe n'a pas changé non plus. C'est un
Mon
plaisir.
Équipe n'a pas changé non plus. Julia est là avec Florian, qui est là aussi, et accompagné de notre célébrissime et historique Laurent Pelé, réalisateur historique d'Europe 1.
C'est vrai.
Et programmateur musical de la Libre Antenne. Donc, toute l'équipe est bien évidemment au rendez-vous.
Bon, pour notre plus grand plaisir.
Ouais. Bon, ma petite Libre Antenne, hein, je vais la faire brève, mais j'hallucine totalement de ce qui se passe à Sciences Po. Je trouve que cela ne met pas à l'honneur, encore une fois, nos dirigeants. Il y a une sorte de laisser-aller. Ce sont les minorités aujourd'hui. Finalement, dans ce pays, maintenant, il faut crier fort. Et puis, vous existez. En fait, la grande majorité silencieuse, qui n'est pas obligatoirement en plus pro-israélienne, hein, mais qui sont des gens modérés, nous, personne ne nous entend en fait, parce que voilà, ce sont 200 allumés et une minorité qui arrivent à faire plier quoi, et tout ça dans un contexte dangereux encore une fois, puisque c'est les idées qui sont promues en ce moment par cette minorité sont très dangereuses et c'est une sorte de racisme auquel on assiste quotidiennement. Voilà, c'était juste ma petite libre antenne parce que moi je suis épris de liberté, voyez-vous, et bien évidemment la liberté pour les Palestiniens, pour les Israéliens, mais je me demande tout ce souk en plus pour un conflit qui est quand même assez lointain. Je pense que cette minorité pourrait s'occuper d'autres choses et d'autres problématiques qui ont lieu sur notre territoire et ce ne serait que bénéfice, hein, puisque voilà, il y en a des problèmes sur notre territoire. Donc bon, Voilà, mon cher Maël, on vous retrouve à 23h, à l'heure et de bonne humeur.
Avec plaisir.
Et la Libre Antenne, c'est parti.
À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, chers amis, et que vous êtes désormais parfaitement installés pour profiter de vos 2 heures de Libre Antenne. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 1h du matin, et c'est vous qui nous parlez à chaque Libre Antenne. C'est vous qui témoignez de votre quotidien et des épreuves que vous abordez et que vous combattez chaque jour que la vie nous amène. Alors, vous le savez, vous pouvez nous appeler quand vous voulez au 01 80 20 39 21. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Comme son nom l'indique, la Libre Antenne est faite pour relayer votre parole. Alors, n'importe quel problème, bien évidemment, n'a pas... il n'y a pas d'ordre de grandeur dans les problèmes. Vous savez que vous pouvez parler de petits et de gros problèmes. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui vous cause de l'énergie. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui vous embête. N'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour échanger avec vous et peut-être trouverons-nous ensemble des solutions. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 739 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous pouvez écrire vos mails à libreantenne@europe1.fr. Vous pouvez écrire vos courriers à l'adresse postale de la Libre Antenne, ici à Europe 1, 2 rue des Cévennes, 75-015 Paris. Et puis, nous accueillons 36 nouveaux membres, ce qui porte à 19 984 membres de cette communauté de la Libre Antenne. Et dans 16 membres nouveaux, eh bien, nous serons à 20 000. Alors continuez de partager cette page Facebook de la Libre Antenne et nous atteindrons le chiffre de 20 000. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Voilà. Eh ben écoutez, il est 22h26 et sans plus tarder, votre Libre Antenne du lundi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Yann sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Yann.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Yann et quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 46 ans, je vous appelle de Charly, qui est une petite commune dans la métropole de Lyon.
D'accord, très bien. Et de quoi voulez-vous me parler, mon cher Yann ?
Alors j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur à plusieurs égards. On va parler d'addiction et plus particulièrement d'un phénomène très inquiétant qui s'appelle le chemsex.
D'accord, ok. Je ne connais pas très bien en plus. On a entendu parler au moment de l'affaire Palmade, hein, me semble-t-il.
Oui, pour le pire, j'allais dire, et c'est à ce moment-là qu'il y a un an, je vais dire, le grand public va faire connaissance avec ce terme.
Oui.
Alors c'est un phénomène qui en fait n'est pas si ancien, hein, qui n'est pas si nouveau, qui a été identifié il y a plus de 10 ans déjà, hein, en France. C'est un phénomène qui touche très très majoritairement les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, donc plutôt dans les populations gays.
Oui.
Mais aujourd'hui, alors moi qui suis à la fois professionnel de santé, à la fois élu et membre engagé dans des associations, on est nombreux à tirer la sonnette d'alarme et constater que c'est un phénomène qui a tendance à s'amplifier. Pour plein de raisons différentes, et on est beaucoup à réclamer un peu plus de prévention sur ce phénomène, puisqu'encore ce mois-ci, il y a eu 3 décès à Bordeaux des suites d'un chemsex.
Alors, expliquez-nous ce qu'est d'abord le chemsex, parce que ça s'écrit C-H-E-M-sex, et oui. Chemsex, comment prononce-t-on ?
Chemsex, ouais. En fait, c'est la contraction de chemical sex.
Chemical sex, d'accord. C'est plus
chemical
plus
sex, le sexe sous drogue.
D'accord.
Et ça démarre dans les pays anglo-saxons.
D'accord. Donc l'origine, son origine est donc en Angleterre et aux États-Unis.
Oui, beaucoup beaucoup en Angleterre. Ils ont été très fortement touchés, toujours, hein, d'ailleurs.
Oui.
Et ça arrive en France il y a 10-15 ans environ.
Alors, vous êtes, je crois, vous êtes adjoint au maire de la commune de Charly. Hein,
oui.
Vous êtes hypnothérapeute, spécialisé en addictologie. Et vous êtes également membre des élus locaux contre le sida, créé par Jean-Luc Romero. Vous êtes addictologue, donc.
Oui, c'est ça. Donc, je suis. Alors, mon premier métier, ça a été infirmier. Et puis après, je me suis beaucoup intéressé aux addictions. Je me suis formé, j'ai passé un diplôme universitaire d'addictologie. Je me suis formé à l'hypnose. Et aujourd'hui, je pratique l'hypnose, qui est un superbe outil de lutte contre les addictions. Soit pour aider les gens dans des sevrages, ça peut être du tabac, du cannabis, ou parfois à maintenir l'abstinence pour des gens qui sont sous traitement de substitution, ou des gens qui sont abstinents de l'alcool. Et c'est un bel outil que je pratique tous les jours.
D'accord. Alors, revenons au chemsex qui semble vous inquiéter, mon cher Yann. Pourquoi vous inquiète-t-il particulièrement en ce moment ?
Alors, en tant que professionnel de santé, tous les addictologues expriment le fait qu'il y a une augmentation des consultations pour le chemsex, le chemsexeur. Une étude a montré que quand même 12% des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes avaient pratiqué au moins une fois le chemsex, ce qui est quand même énorme. On voit aussi de plus en plus ce genre de pratique dans les milieux libertins, donc plutôt chez des populations hétérosexuelles.
Oui.
Et on sait aussi que pendant le confinement, comme beaucoup d'addictions, le chemsex a pris un boom considérable et il y en a eu une multiplication de consultations pour le chemsex.
D'accord. Chemical sex, quel type de drogue prennent ces personnes donc, qui pratiquent le chemsex ?
Alors, il n'y a pas vraiment de règles, hein. C'est vraiment un mélange. Il y a quand même, je vais dire, quelques classiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les drogues de synthèse, qui sont des drogues qui sont fabriquées dans des laboratoires en Chine, en Pologne ou aux Pays-Bas. Ce sont des substances qui sont très facilement accessibles.
Oui.
Ce qui fait la dangerosité aussi du phénomène, c'est que sans même avoir un gros bagage, je dirais, de technicien Internet, vous pouvez très facilement commander ces substances sur Internet.
Et ah oui, carrément.
Oui, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et il y a une fameuse drogue dont on a entendu parler qui s'appelle la 3-AMC.
Oui.
Donc c'est une drogue de synthèse qui imite en fait la fuite de cat qu'on trouve au Moyen-Orient, qui est un peu la cocaïne du Moyen-Orient.
Oui.
C'est une amphétamine très puissante.
Comment s'appelle-t-elle, pardonnez-moi ?
La 3-AMC.
La 3-DMC, d'accord, ok.
AMC. Et du coup, c'est une molécule, c'est une drogue qu'on appelle une love drug, c'est-à-dire que c'est un pouvoir en pathogène hyper fort. C'est-à-dire que tous les gens s'aiment, en gros. Et en plus, avec le côté amphétamine, on va prolonger les rapports sexuels pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Et puis après, il y a des mélanges. Et c'est en ça que c'est souvent très dangereux.
Oui.
On utilise aussi beaucoup de GBL. C'est un petit peu, on a souvent appelé le GHB, la drogue du violeur.
Oui.
Ça, c'est une petite variante, puisque le GHB est un produit illicite, alors que le GBL est vendu dans des grandes surfaces. Hein, c'est un produit détourné. Et ça se transforme dans le corps en GHB. C'est un produit qui est utilisé dans les anesthésies, par exemple. Et ces mélanges-là sont très dangereux parce que c'est des produits qui se donnent à la pipette. Et parfois, il y a des surdosages ou des mélanges qui provoquent des comas et parfois irréversibles.
Comment se procure-t-il tous ces produits ? C'est essentiellement sur Internet ?
Alors, il y a des produits qu'on trouve sur Internet comme les drogues de synthèse.
Oui.
Il y a des produits qui sont détournés de la grande distribution. Le GBL, c'est un produit, en fait, c'est un solvant qu'on utilise pour nettoyer les graffitis ou décaper les parquets.
Oui.
Donc, ça se trouve dans un magasin de bricolage. Hein. Et puis, il y a le bon vieil alcool. Et puis après, on peut se prendre la cocaïne. Bon, c'est des produits que malheureusement, on trouve quand même assez facilement.
D'accord. Et donc, du coup, à l'origine, je crois savoir que le chemsex était pratiqué par des hommes d'une cinquantaine d'années, c'est ça ?
Alors, c'est vrai que, entre autres, ce qu'on réclame, nous, professionnels de santé, associations et certains élus, c'est une étude épidémiologique. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'identifier vraiment le phénomène pour faire la prévention et aller vers les populations concernées. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire de la prévention de chemsex en EHPAD, mais on a besoin d'avoir quelques données. Il y a une chose qu'on constate dans les consultations, c'est qu'il y a quelques années, effectivement, c'était plutôt réservé à des quadras, des quinquas, alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes, y compris des jeunes qui rentrent dans la sexualité par le chemsex, qui est tout à fait dramatique.
Directement, ils rentrent dans la sexualité par le chemsex ?
C'est un rapport sexuel sous drogue.
C'est incroyable, ça.
Ouais. Et puis, quand quelqu'un vous décrit un premier chemsex, bien souvent, il y a un effet waouh qui est incroyable. Parce que justement, tous les sens sont décuplés.
Oui, oui.
Il y a un chemsexeur qui vous raconte sa première partie de chemsex, vous avez presque envie de le faire, tellement on vous décrit quelque chose d'incroyable.
D'incroyable, formidable. Oui.
Et c'est tout le piège. Comme souvent les addictions, avec le premier effet waouh, et puis après, par contre, c'est plus compliqué.
Y a une addiction, donc vous parlez d'addiction au chemsex, c'est-à-dire qu'on est accroché, on peut être en manque de tout ça. Ce sont les produits plus.
Alors justement, il y a une double addiction souvent qui est un peu pernicieuse, c'est qu'il y a à la fois l'addiction aux substances. Bah, par exemple, la 3DMC, c'est quelque chose qui est hyper addictogène, avec des descentes aussi épouvantables, c'est-à-dire quand on commence à manquer de produits. Il y a des chemsexeurs qui vous décrivent vraiment des suicidaires très très fortes. Et d'ailleurs, il y a des suicides pendant des descentes de substances.
Oui.
Donc, il y a ce produit-là qui est très addict. Et puis après, on est addict aussi au rapport sexuel sous drogue, c'est-à-dire aux sensations des rapports sexuels. Et très très vite, on voit des gens parfois qui vont se désociabiliser, qui vont oublier de manger, de boire, parce que parfois ça peut durer plusieurs jours, et qui arrivent des fois en consultation dans des états de délabrement physique, qui sont déjà très importants.
Alors, je vous avoue que on a découvert cette pratique de chemsex, en tout cas on en a entendu parler lors de l'affaire Palmade. C'est vrai qu'on a été un peu circonspect d'apprendre comment tout ça se pratiquait, et surtout des prises de drogue pendant plusieurs jours, du sexe pendant plusieurs jours. Il y a, de mon point de vue, sûrement un problème de consentement dans ces heures qui défilent, les états qui se transforment, avec, comme vous dites maintenant, des jeunes populations qui arrivent sans doute dans le milieu gay, un peu la fleur au fusil comme ça, et qui ne connaissent pas du tout la violence de certains rapports sexuels en plus, hein, parce que il y a quand même des rapports qui sont quand même assez violents, non ?
Vous avez raison, parce que bien souvent, c'est comme des gens qui sont addicts à la pornographie, par exemple, bien souvent ils vont chercher après des choses un peu plus extrêmes, parce que ils veulent à chaque fois aller un petit peu plus loin. Et on peut voir aussi dans le chemsex des pratiques sadomaso, des choses qui peuvent aller assez loin.
Oui.
Mais après, vous savez, moi en fait, je me suis intéressé au chemsex parce que moi je suis homosexuel. J'ai 46 ans, et quand j'avais 18-20 ans, j'étais un jeune gay peut-être un peu perdu, parce que je n'avais pas encore fait mon coming out. Je me dis que peut-être j'aurais pu moi-même tomber sur un plan foireux. Et peut-être que si aujourd'hui j'étais jeune homme de 18-20 ans, peut-être que je serais mort dans un chemsex. Parce que c'est très facile de se laisser embarquer.
Comment peut-on mourir dans un chemsex ? On meurt d'overdose, Yann ?
Oui, alors souvent le mélange fatal, c'est le GHB et l'alcool.
Oui.
Provoque des comas. Et puis il y a des surdosages. Parce que le problème aussi, quand vous achetez une drogue sur Internet, en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans.
Oui,
il peut y avoir vraiment tout n'importe quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nos auditeurs, vos auditeurs, aujourd'hui, s'il y a des gens qui utilisent la cocaïne, par exemple, eh bien, on sait que dans 60% des cas, en fait, ce n'est pas de la cocaïne, c'est des drogues pourries qui arrivent de Chine ou je ne sais quoi, parce que c'est moins cher.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui arrivent de Chine, hein, j'ai l'impression.
Ouais.
Comment ça se fait, ça ?
C'est-à-dire que... la Chine est un très très gros producteur de tout, et y compris de substances illicites, mais on n'est quand même pas en reste en Europe, hein, la Pologne, les Pays-Bas, on en trouve quand même un petit peu de partout.
Mmh. Alors
aujourd'hui, je disais aujourd'hui, par exemple la cocaïne coûte environ 60 euros le gramme.
Mmh.
Il y a quelques années, il y a 20 ans, elle était à 180 euros.
Oui.
Il y a aussi une multiplication. La cocaïne, aujourd'hui, c'est pas rare d'entrer dans le milieu étudiant, ce qui n'arrivait pas il y a une vingtaine d'années.
Vous savez que l'Europe est devenue le premier marché pour la cocaïne. Hein. Désormais, on dépasse les États-Unis. Les cartels mexicains ont bien compris que la demande était très forte en Europe. Et puis, ils se sont vite aperçus entre mafias, donc qui se sont entendus que les chemins de la drogue venant d'Afrique noire et du Maroc avaient bien évidemment il y avait une facilité à acheminer la cocaïne en Europe. Donc alors revenons-en au chemsex. Vous dites que selon les chemsexeurs, ça va du gamin de 17 ans au gars de 60 ans, toute profession confondue. Comment arriver à faire de la prévention puisque ça touche tout le monde et tous les milieux?
Alors je pense d'abord, ce qu'il faut toujours bien recentrer, c'est que comme toute addiction, Le chemsexe, une addiction, c'est une maladie. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on est quand même encore dans une société où quelqu'un qui boit, quelqu'un qui addict, c'est quelqu'un qui a pas de volonté. Il y a toujours cette notion. Et puis alors le chemsexe, notamment cette affaire Palmade, a fait quand même un peu de mal parce que aujourd'hui on a même des chemsexeurs qui n'osent plus consulter parce qu'ils se sentent stigmatisés. On a dit ils ont senti le message. On a encore une maladie qui arrive de chez les gays, quoi, vous voyez.
Oui.
Donc ouais. C'est important de dire que tout ça est une maladie. Que c'est une maladie chronique, neurologique, et qu'effectivement, il faut faire de la prévention. Et l'État a commandé en 2022 un rapport, c'était Olivier Véran à l'époque, et donc il y a eu un rapport qui a été remis par le professeur Beniamina, donc qui est un addictologue, qui a été fait avec plein d'associations, notamment AIDS, qui est une association très active sur le sujet. Et il y a des préconisations. Sauf que depuis, il y a 3 ministres qui sont passés, il n'y a pas de prévention qui est faite. Et si on veut faire la prévention, il faut commencer par faire une étude, identifier le phénomène, le quantifier, et après, on sait ce qu'on on fait la prévention, ça on sait faire en France. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les populations concernées. Et pour ça, voilà, il faut commencer par le commencement, et pour l'instant, malheureusement, on est un peu à sec.
C'est encore les associations qui semblent porter seules le poids de cette alerte et de la prévention, non ?
Complètement, complètement. Et puis, il y a eu quand même une petite étude qui avait été faite qui s'appelle Sea, Sex and Chems, qui a été faite par un jeune psychiatre, et qui donne 3 chiffres. Il y a 3000 chemsexeurs qui ont témoigné de manière anonyme sur une plateforme dédiée. Il y a 16% des chemsexeurs qui étaient des femmes. Donc ça, on l'a un petit peu ignoré.
Combien ? Et parmi 30% 16%. D'accord, c'est pas beaucoup.
Déjà, pas mal. Mmh.
Ouais, mais c'est pas mal, vous avez raison, ouais.
Ouais, parce qu'on disait que les femmes n'étaient pas concernées. Et puis il y a 6% qui sont hétérosexuels.
D'accord.
C'est aussi un chiffre qui devrait quand même un peu nous interroger parce que malgré tout, des drogues qui sont facilement accessibles. Pas besoin de point de deal. Il y a les sites géolocalisés qui font que si vous allez sur certaines applications, en 5 minutes vous trouvez un plan chemsex. On a tort de sous-estimer le phénomène quand même.
Oui, il ne faut surtout pas sous-estimer le phénomène qui peut amener beaucoup de dégâts chez celles et ceux qui le pratiquent. Les 3 décès qu'il y a eu à Bordeaux dernièrement, c'était dû à quoi exactement ?
Alors, j'ai visiblement, c'est lié à des mélanges aussi qui n'ont pas été bons. Oui. Notamment, je crois qu'il y a des personnes qui ont bu tout un verre en pensant que c'était de l'eau et c'était du GHB. Donc, le GHB dosant la pipette, il y a eu une overdose. Et alors, ce qu'on constate aussi souvent dans les chemsex, c'est malheureusement ce qui est arrivé au mari de Jean-Luc Romero en 2018, c'est que bien souvent, les participants tardent à appeler la police ou les secours parce qu'ils ont peur, parce qu'ils détiennent des produits stupéfiants. Et du coup, il y a des gens qui sont dans une agonie pendant plusieurs heures avant que les secours arrivent.
Oui. Mais c'est quel risque, au-delà de l'overdose, que risque-t-on à faire ce type de pratique dangereuse ?
Alors, le risque d'addiction, évidemment, qui n'est pas neutre, c'est-à-dire être asservi à la substance. Après, il y a le risque d'infection sexuellement transmissible, parce que malheureusement, à certains moments, quand on est défoncé, parfois on oublie le préservatif. Et d'une manière générale, le préservatif est très largement délaissé, alors qu'il y a une dose des contaminations de VIH. Il y a un risque, comme vous disiez tout à l'heure, de consentement, parce que au bout de plusieurs jours, parfois, le consentement il se pose, avec des pratiquants qui pourraient être à la fois victimes ou à la fois bourreaux, parce que quand on n'est plus soi-même, on peut être les deux à la fois.
Oui.
Et puis voilà, le risque de décès, aussi de perturbation de la sexualité, parce que c'est une rééducation après d'avoir des actes sexuels sans substance.
Oui, ça peut rendre l'acte sexuel finalement assez banal après.
Complètement. Complètement.
Ouais.
Donc c'est toute une rééducation, surtout pour des jeunes qui vont entrer dans la sexualité, quoi. Ça peut faire du dégât.
Oui. Aujourd'hui, donc cette prévention, vous la faites quoi, comment, dans les clubs Bon, on va marquer une petite pause, Yann. On va marquer une petite pause et puis vous me réservez votre réponse après, d'accord ?
Ça marche.
À tout de suite.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution.
En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
22h43, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez, vous le savez, continuer à faire le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis. Yann, il y a bien évidemment un risque d'addiction, il y a un risque de subir une agression sexuelle. Tout cela, en même temps, hein, on peut subir les deux. La police travaille un peu sur ces réseaux, en fait, qui organisent ce type de pratique, parce que je suppose que c'est... Est-ce que c'est interdit, ce type de pratique?
Alors, ce qui est interdit, c'est de détenir et d'utiliser des substances stupéfiantes. Donc, lorsqu'on utilise de la 3MC ou de la cocaïne, évidemment qu'il y a un côté illicite. Aujourd'hui, alors, les policiers sont quand même un peu plus au fait de ce sujet, comme les magistrats ou les pompiers, les urgentistes. Pour autant, on est, ça c'est un avis plus personnel, enfin, moi qui fais un peu de politique, mais on est dans un système un peu tout répression, c'est-à-dire qu'on vous bassine du matin au soir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais avec les plans PlastNet XXL ou des gros des lois judiciaires, mais sauf que la répression, ça a ses limites. Mm-hmm. Alors, bien sûr qu'il faut lutter contre les trafics. En revanche, concernant les consommateurs, la répression n'a jamais servi à quoi que ce soit. Et malheureusement, on entend beaucoup de ministres de l'Intérieur, mais on n'entend pas beaucoup de ministres de la Santé sur ces sujets-là. Et donc, il y a ce côté. Je voyais à Bordeaux, il y a une des personnes qui a été jugée en tribunal correctionnel. Bon, très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour soigner cette personne?
Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment soigne-t-on ces gens-là, en fait?
Alors, il y a effectivement des associations qui font un travail formidable.
Oui.
Je pense à Aide, mais il n'y a pas que. Moi, chez moi à Lyon, il y a plein d'associations. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle le Corévi, qui est plus sur la lutte contre le sida. Mais c'est une association, par exemple, qui en 2017 a tiré la sonnette d'alarme en disant on a une vingtaine de cas de décès suspects.
Oui.
Alors qu'à l'époque, on disait qu'il y avait 20 décès par an en France. Alors, sauf à penser que tous les gamesexeurs étaient à Lyon. Il y a une enquête de fait par l'Agence régionale de santé qui en a avéré 9. C'était en 2017. Donc il y a quand même 7 ans qui sont passés depuis.
Oui.
Donc on peut supposer quand même que le nombre de décès est quand même très important.
Oui, oui.
Mais on continue un peu à mettre la poussière sous le tapis et à nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi.
Mais tout ne va pas bien. Si vous me dites qu'il y a eu 3 morts à Bordeaux là dans le mois dernier, c'est que c'est tout de même une pratique qui est de plus en plus répandue, j'ai l'impression, non?
Oui. Il y a plus de consultations, clairement. Il y a plus de gens qui arrivent aux urgences, clairement. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que comme le phénomène est un peu plus connu, alors aussi des médias, c'est vrai que je vous donne envie, hein, de plus en plus, vous verrez qu'il y aura des décès qui seront mis en avant par le Chemsex. Hein. Des fois, je discute avec vos collègues journalistes et qui ne connaissaient pas le phénomène et qui aujourd'hui sont plus à l'écoute de ça. Et comme les policiers connaissent aussi un peu mieux, c'est des choses qu'on va un peu plus entendre. Mais en fait, en réalité, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est que le jour où on aura vraiment un état des lieux très précis des consommations, des pratiquants et du nombre de décès, si tant est que ça arrive un jour, je pense qu'on pourra tomber de notre chèvre.
Comment vous expliquez qu'on puisse trouver ces drogues aussi facilement? Comment peut-on commander ça sur Internet? C'est fou.
C'est un vrai sujet. Alors ça, je pense qu'il faudra poser la question aux autorités. Alors j'imagine que c'est très compliqué aussi de réglementer des sites étrangers qui en plus doivent certainement changer très très régulièrement. Le fait est que vous pouvez en quelques jours avoir dans votre boîte aux lettres ce genre de substance.
C'est dingue quand même.
C'est fou. Après, encore une fois, il y a aussi des produits qui sont détournés, comme le GBL, qu'on trouve dans tout le magasin de bricolage. Donc,
le GBL, ça sert à quoi, le GBL à l'origine, en fait?
Le GBL, donc, c'est une substance, c'est un solvant qu'on utilise dans l'industrie pour nettoyer les jantes de voitures ou décaper les parquets, par exemple.
Oui.
Et lorsqu'on ingère cette substance-là, ça se transforme dans le corps en GHB, qui est ce qu'on appelait la drogue du viol. Alors, c'est un anesthésiant, en fait, qui a aussi un effet empathogène, c'est-à-dire un effet de tranquillité, d'apaisement. Sauf que si vous prenez 3 gouttes de trop, vous risquez le coma, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se dose.
Donc, c'est bien là, en fait, que ces gens-là trouvent la drogue du violeur aussi, en fait. Ce GBL là, si vous me dites que on peut trouver ça dans n'importe quelle droguerie, c'est fou. Moi, je savais pas ça du tout.
Alors après, cette histoire de drogue du violeur, ça a quand même été pour le coup là un peu un truc de médias un peu rapide, parce qu'en fait, de tout temps, la drogue du violeur, c'est l'alcool et c'est les somnifères mémé. Hein. C'est pas gentil pour mémé, mais tous les somnifères qu'on trouve dans les armoires à pharmacie, en fait, c'est ça, les drogues du violeur. Les cas de, en tout cas, ce qu'on voit en médecine légale, c'est que les cas d'intoxication à l'insu au GHB sont a priori relativement rares quand même. Hein.
D'accord. Comment donc organiser la prévention aujourd'hui, Yann ? Comment faites-vous ?
Alors, pour l'instant, ce sont les associations qui portent ça et les professionnels de santé, comme ils peuvent, en allant dans les clubs gays, en essayant de faire un maximum de prévention. Il y a certaines villes qui commencent à s'emparer comme du sujet. Alors, il y a Paris, il faut les citer, qui notamment ont des plateformes géolocalisées de ressources pour les chemsexeurs. Si jamais, par exemple, vous avez eu un rapport non protégé, ben vous savez où aller pour faire une trithérapie, ou si vous avez besoin de voir un édictologue, vous savez où aller.
Oui.
Donc voilà, le but, c'est de faire entrer aussi les gens dans le système de soins, parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis, maintenant, il faudrait qu'on puisse tous se mettre autour d'une table et puis mettre un petit peu de moyens pour aller plus loin, parce qu'on voit bien que ça ne suffit pas avec les associations, font ce qu'ils peuvent, mais il faut les aider, quoi.
Mais comment aller plus loin, en fait ? Parce que qui pourrait prendre le relais ? Le gouvernement, je suppose, mais oui. C'est compliqué, sûrement, de faire de la prévention dans ce type de milieu. Ça doit être très compliqué.
Oui, on sait quand même faire en France la prévention, mais quand on se donne les moyens. Mais justement, il faut être sûr de savoir vers qui on va. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a que la population gay, des gens de 50 ans dans les grandes villes qui sont concernés, ok, on va voir ces gens. Par contre, si on nous dit ce qu'on pense, qu'il y a tous les âges, que ça se passe aussi dans les campagnes, que parfois il y a des gens hétérosexuels, etc., etc., eh bien là, on pourra aller aussi vers les populations et être beaucoup plus efficace. Et puis aussi parce que il y a une question de finance. Quand on a des moyens aussi, on peut faire des campagnes de prévention. Et ça passe aussi par ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire discuter. Il y a encore une semaine, j'ai une dame qui faisait des partouzes, des choses comme ça, qui ne savait pas qu'il ne fallait pas mélanger le GHB et l'alcool, par exemple. Donc peut-être qu'en lui disant, cette dame, je ne sais pas, peut-être que je lui ai sauvé la vie, vous voyez. Mm-hmm. Et donc, plus on en parle, mieux c'est.
En fait, finalement, le problème, Yann, ce sont tous les novices qui sont attirés par des chemsexeurs bien avertis, eux, parce qu'on sait, quand on est un pratiquant de ce type de rapport sexuel, qu'il y a danger, que l'on peut avoir... Oui. Un problème de dire oui ou non à certaines pratiques. Au bout d'un moment, quand on a pris trop de drogue, on sait très bien qu'à 18 ans, ça peut taper dans les circuits suffisamment pour ne plus savoir où on habite et finalement se retrouver à faire des choses qu'on n'a pas obligatoirement voulu faire.
Oui, bien sûr, évidemment qu'il y a une histoire de vulnérabilité dans tout ça. Et c'est vrai que AIDS, par exemple, va expliquer à des chemsexeurs comment réduire les risques, c'est-à-dire comment être dans une pièce propre, comment prendre des préservatifs, comment faire attention à l'hygiène, comment faire attention si vous piquez, etc. Parce que, évidemment, que la moralisation ne sert à rien. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit de dire que c'est pas bien qu'il faut faire de chemsex. Donc à ce moment-là, les gens, sachant qu'ils vont le faire, il faut les accompagner dans cette pratique-là pour qu'ils se mettent le moins en danger possible. Mmh. Et vous avez raison, il y a toute une population, notamment de plus jeunes, qui rentrent dans le chemsex et parfois directement en s'injectant dans les veines, ce qu'on appelle le slam, avec des risques considérables.
Mon Dieu. Je vais peut-être vous poser une question un peu naïve, mais comment se fait-il que ce soit les milieux gays qui soient le plus touchés, Yann ?
Alors, c'est une question que je me suis souvent posée. C'est une question qui peut parfois être un peu touchy et qui peut parfois peut crisper un peu. Alors, étant gay moi-même, c'est vrai que je peux me permettre de dire plein de choses.
Exactement. Parce que là, je ne le suis pas. Donc, c'est un hétéro qui s'adresse à un gay. Nous sommes amis. Donc, il n'y a aucun problème. C'est quand même une question. Pourquoi, en fait?
D'abord, historiquement, dans la population homosexuelle, il y a quand même plus de rapports dans entre hommes. C'est plus fréquent, la multiplicité
c'est plus simple, hein, les rapports avec les hommes. Hein.
Oui, on peut dire ça.
Moi, j'ai des amis homos qui me parlent souvent de cette complexité chez les hétéros qui les fait bien rire, en fait. Il y a quelque chose de plus facile chez les hommes, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Alors après, je voudrais pas non plus qu'on imagine que tous les gays baissent toute la terre à droite à gauche.
Non, pas du tout. Moi, j'ai des amis gays qui sont en couple, mariés et qui partenaires. Voilà.
Exactement. mais voilà, c'est sûr que dans le milieu gay, c'est des milieux très festifs. Il y a des lieux de sexe. La multiplicité de ces rapports fait que ce qui a tout changé par rapport au chemsex, c'est l'arrivée d'Internet. Parce que on pouvait donc commander des substances sans aller sur des points de deal. Ça, c'était quand même nouveau. Mm-hmm. Ça arrive directement à la boîte, c'est pas cher. Et puis, il y a ces applications géolocalisées.
Qui ont augmenté la capacité.
Qui ne jouent pas le jeu du tout. Hein. Mm-hmm.
C'est
un boom.
Et vous notez un rajeunissement des personnes qui pratiquent cela.
Oui. Encore, il n'y a pas longtemps, je donnais une formation pour des éducateurs dans un foyer qui accueillait notamment des jeunes migrants. Et sur Lyon, on a une reconnaissance de jeunes migrants, selon des mineurs isolés, qui se retrouvent dans les pratiques du chemsex. Parfois, il y a de la prostitution. Parfois, on paye pour ça. Oui. Mais il y a des vraies entrées de jeunes un peu paumés, on va dire.
C'était le cas dans l'affaire Palmade. Les deux gamins qui accompagnaient Palmade étaient quand même des gars qui, je ne sais pas d'où ils sortaient, mais ceux-là, on n'aurait jamais dû se croiser, hein, visiblement. Les rapports étaient un peu curieux. Est-ce que renforcer la loi, vous qui êtes un politique aussi, puisque vous êtes conseiller municipal...
Et en plus, je suis de droite, rendez-vous compte.
Bon, ça n'est pas une tare d'être de droite, je vous rassure.
Non, mais je le dis justement parce que c'est une chose dont je suis très fier, c'est que alors aujourd'hui, la politique, elle est un peu décriée et tout le monde s'en est bien donné la peine.
Puis on a du mal à repérer la droite de la gauche aujourd'hui.
Et puis, y a un peu des maladies de gauche et des maladies de droite, vous voyez. Le cancer, c'est une maladie de droite, le sida, c'est une maladie de gauche. C'est d'une crétinerie sans nom. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec Jean-Luc Romero, avec les socialistes, je travaille à Lyon avec la majorité écologiste, et ça se passe très très bien. Et ça, j'en suis très fier. C'est-à-dire que il ne devrait pas y avoir de clivage politique sur ces sujets-là, sur les sujets de santé. Si vraiment on veut redorer l'image de la politique, il y a un sujet, les addictions, la santé, qui peut quand même tout se nourrir.
Il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est les sites pornographiques. Tout ça contribue aussi à lever le curseur des pratiques sexuelles. Il y a aujourd'hui, dans la liberté numérique et qui propose à tous ces gamins de voir du porno très tôt, sans doute une perception du sexe. Quel âge avez-vous, Yann ? Vous m'avez dit ?
46.
À 46 ans, vous êtes rentré dans le sexe, il n'y avait pas encore Internet et tout ça. En tout cas, on était à la veille, mais ça change quand même radicalement la perception du sexe. Vous êtes d'accord ?
Oui, complètement. Mais j'ai aussi beaucoup de jeunes, enfin même de moins jeunes, qui font des addictions à la pornographie et qui ont du coup un rapport au sexe est complètement décalé avec cette idée de l'homme augmenté qu'il faudrait, comme dans un film porno, avoir des rapports incroyables et acrobatiques.
Oui.
Et qui vous disent que ils ont commencé à regarder beaucoup de porno quand il avait 10-11 ans, quoi.
Bien sûr. Aujourd'hui,
à mon époque, on essayait de regarder les films sur Canal, on essayait de piquer une cassette aux parents, mais aujourd'hui, la pornographie, c'est accessible hyper facilement, hein, c'est un vrai sujet. Hein.
Vous notez une perception différente du sexe chez les jeunes aujourd'hui, ce qui expliquerait aussi le nombre de jeunes aujourd'hui qui pratiquent le chemsex?
Oui, c'est-à-dire que justement, c'est j'en discutais avec un monsieur qui s'appelle Fred Bladou, qui est un grand spécialiste national du chemsex et qui parle aussi de l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'il y a cette idée dans le chemsex d'avoir des rapports pendant très longtemps, de multiplier les partenaires, d'être une bête de sexe, quoi. Et il y a cette notion-là, oui, de l'homme augmenté, et qu'on retrouve aussi des fois chez les consommateurs de cocaïne, qui veulent se booster parce qu'il faut tenir un rythme qui devient infernal, quoi.
Oui. Non, mais ce sont des pratiques, bien évidemment, qui sont très inquiétantes. Hein. Aujourd'hui, on peut noter que dans ce que vous nous racontez ce soir, entre la perception du sexe modifiée par le porno, entre l'acquisition de tous ces produits stupes qui sont importés de Chine, et puis on sait que la Chine est extrêmement douée pour jouer sur les législations. Vous avez raison de souligner qu'il y a tout un tas de produits qui arrivent aux douanes et qui passent quand même aux douanes, puisque en fait il n'y a pas d'interdiction. On va marquer une pause et puis